Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 12 avril, ravi de vous retrouver pour vivre 7 jours d'actualité sur la planète avec bien sûr la rédaction. Je vous rappelle que vous pouvez podcaster cette émission, ce magazine, sur le site de la radio www.rfi.fr. Nous sommes cette semaine en compagnie d'un ami de l'émission, Yann Mens, le rédacteur en chef du magazine Alternative Internationale. Bonjour Yann.
Bonjour.
RFI. Yann, partons tout de suite pour Bruxelles afin d'écouter le patron de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, Anders Fogh Rasmussen. Rappelons que selon l'OTAN, la Russie aurait massé 40 000 hommes près de sa frontière avec l'Ukraine après l'annexion de la Crimée par Moscou. Certains craignent une intervention russe compte tenu de la situation instable qui prévaut dans l'est du pays, dans l'est de l'Ukraine. Donc,
je suis très préoccupé et je demande à la Russie de déescaler la situation. Notre position est très claire. Les actions russes en Ukraine sont illégales, illégitimes, et nous avons demandé aux Russes de se retirer. Si la Russie va intervenir davantage en Ukraine, j'envisage des sanctions économiques.
Une semaine d'actualité, merci de votre fidélité. En France, la semaine a été marquée par le discours de politique générale du nouveau Premier ministre Manuel Valls. Nous allons en reparler, bien sûr. Un discours teinté d'une touche autobiographique.
Et être Premier ministre du gouvernement de la France est un immense honneur pour moi. Et je me dis qu'il y a peu de pays au monde qui permettent à des citoyens nés à l'étranger, qui ont appris les valeurs de la République, de prendre les plus hautes fonctions de l'État. C'est pour ça que j'aime profondément ce pays et c'est pour ça que je suis fier de m'adresser à sa représentation nationale. C'est cela la France et ce sont ces valeurs qui doivent aussi, les uns et les autres, nous rassembler. Voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous devons rester. Ne rétrécissons pas la France, ne rétrécissons pas ses rêves. Et je vous demande, le cœur battant pour la France, de m'accorder votre confiance pour qu'ensemble, cette confiance, nous la rendions aux Français.
Sept jours dans le monde.
Avant de vous retrouver, Yann Mens, je sens que vous voulez déjà réagir. Partons au Québec. Les électeurs québécois ont infligé un désaveu cinglant au Parti québécois en accordant une large majorité à l'Assemblée de la province francophone au Parti libéral du Québec. Le Parti québécois a enregistré son score le plus faible depuis sa première élection en 1970. Correspondance lundi de Pascal Guéricola.
Lorsqu'elle a déclenché les élections il y a un mois en espérant obtenir un gouvernement majoritaire, la chef du Parti québécois dominait les sondages. 35 jours plus tard, le soutien des Québécois au Parti indépendantiste s'est littéralement dégonflé. Pauline Marois elle-même a perdu son siège de députée à l'Assemblée nationale et elle a annoncé qu'elle quittait la direction de son parti. Une majorité d'électeurs ont choisi le Parti libéral, dont la corruption avait pourtant été dénoncée par de très nombreux manifestants au printemps 2012. Misant sur l'économie et l'union de tous les Québécois, le nouveau chef de cette formation politique a rétabli la confiance avec la population. Philippe Couillard devient donc le nouveau Premier ministre du Québec.
Une semaine d'actualité en compagnie de Yann Mens, le rédacteur en chef donc d'Alternative Internationale, l'excellent Alternative Internationale, dont le numéro 62 est dans les kiosques, avec en une « Immigration, faut-il ouvrir les frontières ?» À propos d'immigration, de naturalisation, de Français, de Premier ministre d'origine catalane, il me semble, vous voulez réagir tout de suite. On va reparler de Manuel Valls tout à l'heure.
C'est-à-dire qu'effectivement, Manuel Valls a raison sur un point. C'est très bien que la France permette à un citoyen né à l'étranger, je dirais d'un citoyen né à l'étranger, citoyen étranger né à l'étranger, parce que dans mon souvenir, Valéry Giscard d'Estaing était né à Coblence, et je crois que Édouard Balladur était né à Smyrne, donc, mais ils étaient probablement de nationalité française à la naissance, en tout cas pour ce qui est Giscard d'Estaing. Donc de ce point de vue-là, effectivement, je suis d'accord avec Manuel Valls. En revanche, j'ai trouvé assez, un peu ridicule, la partie de son discours qui précédait, dans laquelle il dit que la France, c'est la lumière de l'universel, que la France est un pays qui a toujours vu plus loin que lui, et que la France a l'arrogance de croire que ce que l'on fait ici vaut pour le reste du monde. Si la France pense tout ça d'elle-même, je la trouve extrêmement prétentieuse, même si effectivement, elle permet à un citoyen, un jeune catalan, catalan de nationalité espagnole, de devenir français et de devenir président. Mais c'est pas une raison pour autant pour que la France pense qu'elle est le phare de la pensée universelle. Ça, je n'y crois pas du tout. Je trouve même ça assez inquiétant, à dire le vrai, et un peu méprisant pour les autres pays.
C'était une envolée lyrique dans un discours technique.
Oui, et en même temps, c'est une envolée lyrique qu'on retrouve assez régulièrement dans les discours des hommes politiques français, de droite comme de gauche. Je suis toujours très très étonné d'entendre des hommes politiques français parler de génie français. J'ai pas l'impression que dans d'autres pays, on entende parler de génie à propos de la nation. Et les Français, les hommes politiques français se moquent volontiers de ce qu'on appelle aux États-Unis la destinée manifeste aux États-Unis, cette idée que les États-Unis ont un destin exceptionnel, différent, oui, pour éclairer le monde. Et on retrouve en fait la même prétention chez les hommes politiques français, et singulièrement dans le discours de Manuel Valls.
La victoire des libéraux au Québec vous inspire un commentaire, cette défaite cinglante du Parti québécois?
Je crois que la première ministre, Pauline Marois, a voulu tenter un coup politique. Je crois que sa majorité était un peu courte. Elle a voulu l'augmenter et elle a obtenu l'effet inverse. Ça veut probablement dire aussi que, et c'est pas spécifique au Québec, que les électeurs demandent des résultats de plus en plus rapides à leurs élus. Un an et demi, c'est très court pour transformer une politique. Peut-être que Pauline Marois et le Parti québécois ont fait des erreurs, probablement. Mais effectivement, comme le disait Pascal Gricola, le Parti libéral qui était avant au pouvoir avait quelques casseroles en matière de corruption. Et visiblement, en un an et demi, les électeurs ont oublié. Alors, est-ce que les électeurs deviennent impatients? C'est pas complètement exclu que les hommes politiques soient maladroits, sûrement, ou femmes politiques, en l'occurrence, au Québec. Mais c'est probable aussi que les électeurs deviennent un peu trop impatients et demandent des résultats trop vite. Et je crains que l'information en continu, les médias en continu, accentuent cet effet.
Alors, on va parler de l'Ukraine, évidemment, dans un instant. Mais je voudrais que nous nous attardions quelques secondes en Inde. Yann, des élections législatives ont commencé et elles vont durer jusqu'au 12 mai. Ce sont les élections les plus longues et les plus grandes du monde, hein, il faut le dire. Je signale qu'il y a un dossier très intéressant sur l'Inde dans Alternative.
Oui, nous avons demandé à Christophe Jaffrelot, qui est un grand spécialiste de l'Inde, oui, et Gilles Vernier, qui est un jeune chercheur également de grand talent, de nous expliquer la montée en puissance depuis déjà au moins deux décennies des partis régionaux en Inde. C'est-à-dire qu'en cinq en Inde, il y a deux grands partis, le parti du Congrès, qui est au pouvoir aujourd'hui et qui est menacé.
Historique.
Voilà, et le parti de la famille Gandhi, et le parti, le BJP, qui est un parti nationaliste hindou, qui va vraisemblablement remporter les élections qui commencent. Mais entre les deux, il y a dans les différentes régions de l'Inde, dans différents états de l'Inde, parce que c'est une grande fédération, des partis régionaux qui sont très importants, qui sont représentés au Parlement locaux et aussi au Parlement national, fédéral, et qui obligent le BJP ou le Congrès à nouer des alliances extrêmement compliquées. Et ces partis ont des intérêts régionaux, ces partis eux-mêmes se fractionnent en partis sous-régionaux. C'est tout ça qu'explique, avec des cartes à l'appui, pour qu'on comprenne où ça se passe, et avec quelle intensité, Christophe Jaffrelot et Gilles Vernier dans l'article que nous publions.
Une semaine d'actualité.
Et cette fois, Yann, nous partons pour l'Ukraine, à l'est du pays, où des séparatistes pro-russes ont occupé ou occupent toujours des bâtiments officiels ukrainiens dans les villes de Louhansk et Kharkiv, ou bien encore à Donetsk. Correspondance mercredi de Sébastien Gobert.
Dans le bâtiment de l'administration régionale à Donetsk, quelques centaines de protestataires armés de divers types d'armes, dont des battes de baseball, des cocktails Molotov et quelques armes à feu, sont bien protégés par des barbelés et des piles de pneus prêts à être enflammés. Eux ne se disent pas tous en faveur d'un rattachement à la Russie, mais en tout cas en faveur d'une autonomie renforcée qui les protégerait des extrémistes de Kiev. Après l'évacuation du bâtiment de l'administration régionale à Kharkiv et l'arrestation de 70 militants pro-russes, ils affirment qu'ils sont les prochains sur la liste des autorités. À Kiev, le gouvernement a lancé une opération antiterroriste et a alourdi les peines encourues pour actes de séparatisme. Mais pour Kiev, toute intervention policière devient une question délicate, dans la mesure où un bilan sanglant pourrait fournir à la Russie le prétexte d'une intervention. Selon le ministère de la Défense ukrainien, Moscou est à l'origine des provocations dans l'Est et se prépare en fait à la deuxième phase de l'invasion du pays.
Une situation à suivre évidemment dans nos différents journaux. De son côté, Moscou nie toute implication dans ces mouvements de séparatistes pro-russes à l'est de l'Ukraine. Correspondance de Muriel Pomponne, mardi.
Pour les Russes, c'est Kiev qui est responsable de la situation dans l'Est. Kiev doit entendre les demandes légitimes des populations de l'Est, a déclaré hier Sergueï Lavrov à son homologue ukrainien Andrei Deshitsa au cours d'une conversation téléphonique. Le gouvernement actuel à Kiev doit organiser un dialogue national impliquant toutes les forces politiques et les régions de l'Ukraine afin notamment de garantir les droits linguistiques, culturels et socio-économiques des populations du sud-est de l'Ukraine. Car pour la Russie, la solution à la crise existe, c'est la fédéralisation et la neutralité de l'Ukraine. C'est sur ce préalable-là que Moscou veut bien discuter avec les Européens, les Américains et les Ukrainiens. Le ministre russe des Affaires étrangères, qui accuse aussi l'Ukraine de transférer vers les régions orientales des forces de la garde nationale et des militants nationalistes du secteur droit, qui seraient encadrés par des mercenaires américains. Et Moscou appelle les Ukrainiens et les Américains à cesser les préparatifs militaires qui pourraient conduire à une guerre civile.
Enfin, les autorités américaines accusent, elles, Moscou d'être derrière les manifestants pro-russes. Washington lundi, Anne-Marie Capomaccio.
Le regain de violence dans l'est de l'Ukraine a été fomenté par la Russie. C'est en substance la position de la Maison-Blanche. D'après Washington, certains manifestants qui ont occupé les bâtiments publics de Kharkiv ou entendent faire sécession à Donetsk ont été rémunérés par Moscou et beaucoup ne sont pas des Ukrainiens russophones, mais des ressortissants russes acheminés sur place pour semer le trouble. Barack Obama estime que Vladimir Poutine est responsable de cette escalade. Jay Carney, porte-parole de la Maison-Blanche.
Si la Russie intervient dans l'est de l'Ukraine, ouvertement ou secrètement, ce sera une escalade très grave. Nous appelons le président Poutine et son gouvernement à mettre fin à toute manœuvre visant à déstabiliser l'Ukraine et nous mettons en garde contre toute intervention militaire.
La Maison-Blanche rappelle que les décrets signés par Barack Obama permettent de resserrer l'étau autour de la Russie, mais ne précise pas si de nouvelles sanctions économiques sont sur le point d'être mises en place. C'est dans ce contexte que le secrétaire d'État John Kerry s'est entretenu par téléphone hier avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Les pourparlers directs entre l'Ukraine et la Russie ne semblent pas être remis en question. Ils sont prévus dans les 10 jours en présence d'émissaires européens et américains.
À souligner aussi dans l'actualité internationale la reprise par les forces syriennes de la ville frontalière avec le Liban de Rankous grâce à son allié du Hezbollah. La Syrie contrôle désormais une grande partie de cette frontière avec le Liban. Il faut, avant de parler de l'Ukraine d'ailleurs, Yann, rappeler que la guerre continue en Syrie. Ça paraît une lapalissade, mais plus personne n'en parle quasiment, sauf RFI.
Très peu, effectivement, très peu. Pas beaucoup d'informations. Il faut dire que la situation est de plus en plus difficile à comprendre du côté opposition parce qu'il y a un fractionnement important des mouvements d'opposition. La coalition nationale, qui était le principal mouvement au départ, est aujourd'hui marginalisée. Il y a de l'autre côté un petit groupe djihadiste qui est connu, qui est l'État islamique en Irak et au Levant. Et puis entre les deux, il y a tout un camaïeu d'organisations salafistes, plus ou moins djihadistes, etc., qu'on a du mal à classer. Et c'est ça aussi qui rend la situation très difficile à comprendre, c'est que tous ces fronts-là bougent, ces fronts militaires et politiques bougent beaucoup.
La Syrie est en tout cas le sujet, le thème de votre éditorial dans ce numéro d'Alternative, Yann. Alors l'Ukraine, la situation ne s'arrange pas, c'est le moins qu'on puisse dire.
Non, je crois que Vladimir Poutine a obtenu d'abord ce qu'il voulait, c'était remettre, si je puis dire, la main sur la Crimée. Quand je dis remettre, c'est parce que jusqu'en 1954, la Crimée est effectivement rattachée à la Russie. C'est Khrouchtchev qui a décidé de la rattacher à l'Ukraine. Donc, pour un certain nombre de Russes, c'était simplement un retour vers la mère patrie, si je puis dire. En ce qui concerne l'est de l'Ukraine, on ne sait pas ce que veut Poutine. On sait ce qu'il dit, ce que disait votre correspondante tout à l'heure. Il dit qu'il veut le plus grand fédéralisme possible et la neutralité de l'Ukraine. La neutralité, c'est-à-dire qu'elle ne se range ni dans l'OTAN, ni a priori trop du côté russe, même si de ce point de vue-là, je pense que Poutine s'en remettrait mieux que l'inverse. Maintenant, est-ce qu'il veut davantage ? Est-ce qu'il veut provoquer franchement la sécession ? On n'en sait rien, mais on a l'impression que Poutine a confiance dans une chose, c'est que les Européens ne feront pas la guerre. On a l'impression que tout son calcul, c'est de dire vous criez fort, de temps en temps vous remuez quelques bateaux, mais vous ne ferez pas la guerre, je sais que vous ne ferez pas la guerre. Maintenant, est-ce qu'il est prêt à prendre le risque de sanctions qui mordent vraiment ? Jusqu'à maintenant, les sanctions n'ont pas eu un très grand effet, mais il faut savoir que les sanctions, contrairement à la guerre, ça prend du temps pour avoir de l'effet, ça met du temps. Et on a vu dans le cas iranien, par exemple. Au départ, le gouvernement iranien disait sanctions, même pas peur, on ne sent rien du tout. Et puis au bout de 2 ans, on a senti que le gouvernement iranien commençait à trouver que ça, effectivement, ça mordait les sanctions. Est-ce qu'on a le temps d'attendre dans le cas de la crise ukrainienne jusque-là ? Je ne suis pas certain. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une échéance à la présidentielle, qui est le 25 mai, je crois, en Ukraine. Et là, on va voir si effectivement, j'allais dire, est-ce que Poutine autorise l'Est du pays à voter ? On sait bien que les fameux groupes pro-russes sont en bonne partie manipulés, voire fournis par Moscou, parce que tous les observateurs le reconnaissent, il y a eu un tas de faux touristes russes qui sont arrivés en Ukraine et qui probablement sont effectivement des animateurs de ces groupes anti-Kiev ou en tout cas pro-Moscou. Est-ce que ces gens-là vont déstabiliser la région dans la perspective de la présidentielle ? Est-ce que Poutine voudra dire le nouveau pouvoir ukrainien n'est pas légitime parce que tout le monde n'a pas pu voter ? C'est à craindre.
Il y a une autre façon de déstabiliser l'Ukraine, c'est d'augmenter le prix du gaz. Alors ça, c'est ce qui domine ces derniers jours, une espèce de guerre du gaz qui commence.
Il y a eu deux choses en début de semaine. La Russie a décidé de doubler le prix du gaz pratiquement que l'Ukraine paye, ce qui était déjà très important puisque l'essentiel de l'alimentation en gaz ukrainien vient de la Russie. Et par ailleurs, ces derniers jours, Poutine en a mis une couche, je peux dire, en disant que l'Ukraine avait une dette de 2 milliards de dollars à l'égard de la Russie et qu'il fallait qu'elle la paye tout de suite. Et si elle ne la payait pas tout de suite, il ne livrerait plus de gaz, sauf si elle le payait d'avance. Et effectivement, c'est clairement une balle dans le camp européen, en disant européen, est-ce que vous êtes capable maintenant de fournir le gaz dont l'Ukraine a besoin ? On est dans la période du printemps, c'est probablement moins vital que ça ne l'aurait été pendant l'hiver.
Mais l'avertissement est clair.
Mais l'avertissement est clair, et ça veut dire que l'économie ukrainienne est dépendante de la Russie, à la fois pour ses approvisionnements, mais aussi pour une partie des exportations. Le marché russe, c'est important pour l'Ukraine. Poutine joue clairement de toutes les armes dont il dispose, les armes officielles, le gaz, les mouvements de troupes à la frontière, et puis les armes officieuses qui sont ces fameux groupes russes.
Alors à l'Est. Face à cela, Yann, il y a l'Union européenne et ses sanctions économiques, c'est ciblé pour l'instant, mais il y a aussi les Américains et l'OTAN.
Sauf que pour l'instant, on a le sentiment que Barack Obama a décidé pratiquement que, sauf vraiment, ou quand Poutine dépasserait vraiment, vraiment, vraiment les bornes, il n'y aura pas d'épreuve militaire. On a l'impression que l'Europe ne le dit pas franchement. L'Europe, l'OTAN, et puisque au sein de l'OTAN, ce sont les États-Unis qui dominent les États-Unis, on a l'impression que personne ne veut faire la guerre. Et que donc, effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce seront les sanctions. Là-dedans, l'Europe apparaît largement à la remorque des États-Unis. Probablement et sûrement aussi parce qu'elle a beaucoup plus d'intérêts économiques en Russie que les États-Unis. Pour un certain nombre de pays européens, c'est un marché important.
Il y a la City à Londres.
Pour la City, mais aussi pour les exports, pour les fabricants.
Qui ne veut pas tension,
oui. Pour les fabricants d'automobiles qui peuvent être français, pour les exportateurs allemands. Non seulement nous achetons du gaz et nous achetons du pétrole à la Russie, mais nous lui vendons un tas de choses. Effectivement, des sanctions risquent d'avoir des dommages collatéraux dans les pays qui en décident. Les États-Unis, de ce point de vue-là, sont beaucoup plus libres et qui sont moins liés économiquement à la Russie.
L'Ukraine est le thème de la chronique de Jacques Amalric dans Alternative Internationale. L'Ukraine entre deux feux, entre Russie et Europe.
Tout à fait, c'était déjà le cas quand Jacques Amalric a écrit son article. C'est encore plus évident peut-être aujourd'hui. Et on sent bien qu'il y a une détermination forte d'un côté, celle de Poutine, qui est d'empêcher que l'Ukraine lui échappe, et de l'autre, une détermination beaucoup plus molle, qui est d'attirer l'Ukraine et de la garder du côté européen.
Sans compter que sa politique ukrainienne renforce sa popularité à Vladimir Poutine, sur fond de propagande des médias russes.
Il y a deux choses. Il y a, je pense, une relation ancienne dans l'histoire russe de l'Ukraine. L'Ukraine est censée être le berceau de la nation russe en bonne partie. Donc c'est une relation historique, ancienne, identitaire, je dirais presque. Et puis, il y a tout un tas de souvenirs. La Crimée, ça a été une guerre pour les Russes, ça a été aussi au moment de la résistance contre les nazis un lieu important où beaucoup de soldats russes sont tombés. Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes dans l'imaginaire russe, et il y a une propagande effrénée, j'en discutais avec un ami correspondant à Moscou récemment, il y a une propagande effrénée des médias russes sur cette question qui déforme totalement l'information, mais malheureusement les Russes, en tout cas beaucoup de Russes, n'écoutent que ça.
Yann Mince, nous allons marquer une pause pour écouter quelques informations de ces dernières heures. À tout de suite.